Quel rôle a joué Judas dans la mort du Christ et que pouvons-nous en tirer? L'affaire est compliquée. En effet, on a l'habitude de considérer Judas comme le méchant, comme dans tous les bons films américains, il faut qu'il y ait un méchant qui soit très méchant, et c'est Judas. Et en fait, la mode ces derniers temps, ça a souvent été de réhabiliter Judas, et même depuis l'Antiquité, avec un prétendu évangile de Judas qui a été écrit vers au IIe siècle, qui prétend qu'il est le summum de la sainteté. Certains ont même voulu canoniser Judas en disant « Saint Judas ». Et vous allez voir pourquoi. Donc l'affaire est compliquée et il y a de nombreuses thèses, hypothèses à propos de ce personnage bien complexe. La plus classique, évidemment, c'est de dire que Judas est un authentique salaud, je dirais. C'est l'image même du traître, du méchant et du vénal. C'est l'exemple de la méchanceté. Il est fourbe, il est faux, il fait ce baiser de trahison effroyable par rapport au Christ. Et en plus, il est intéressé par l'argent, puisqu'il vend Jésus pour 30 pièces. L'évangile de Jean nous dit qu'en plus, c'était un trésorier véreux. Enfin bref, il est effroyable et en plus, il est faible parce qu'il a des remords. Et au lieu de se repentir et d'essayer de réparer quoi que ce soit, il se pend. Donc c'est vraiment un misérable jusqu'à la fin de sa vie. Et puis l'histoire est donc tout à fait morale, très bien pour les catéchismes des enfants, parce qu'il est méchant et en plus il est donc perdu. Jésus dira « il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né ». Donc Jésus condamne fermement ce méchant, le méchant est puni et tout va pour le mieux. Le problème, c'est qu'en faire de cette histoire? Alors, on peut toujours rester dans les catéchismes moralisants en disant ben, « Judas nous est montré comme l'exemple du méchant, l'exemple du damné, donc prenez garde de ne pas être aussi méchant que lui ». Ou alors, ça nous rassure, parce qu'en fait, aucun de nous ne sommes vraiment aussi méchants que Judas, il faut bien le dire, donc ça nous rassure en disant finalement, nous, Judas est puni, c'est très bien, mais le boulet passe loin de moi. Mais ce serait bien si c'était si simple. En fait, ça pose quand même beaucoup de problèmes, cette lecture traditionnelle. La première, ce sont les paroles dures de l'Évangile à l'égard de Judas. Cette condamnation que je vous ai lue, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né. C'est terrible ça, terrible. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir une vie humaine, une vie physique, dont on pourrait souhaiter qu'elle ne soit pas? Ça pose de vrais problèmes, hein, si vous voulez. On dit aujourd'hui la vie est sacrée, même le plus méchant a le droit de vivre. Apparemment, pour Jésus, Judas, il aurait mieux fait de ne pas vivre. Encore que Jésus est quand même sympathique, puisqu'il l'a... Il savait que Judas était un traître, il l'a gardé avec lui dans son équipe, il ne l'a pas viré, donc c'est gentil, enfin, on ne sait pas très bien. Mais en tout cas, où est le pardon, où est la grâce là-dedans? On nous dit l'évangile, c'est l'évangile de la grâce, l'évangile du pardon, et finalement nous sommes tous pécheurs, un peu plus, un peu moins, et autrement dit nous sommes tous sauvés, non pas par nos œuvres, mais par grâce. Et la grâce pour Judas, elle est où? Jésus sur la croix dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Quel grand cœur, quelle générosité, quel beau message. Et Judas, pourquoi n'est-il pas pardonné? Pourquoi n'a-t-il pas la grâce? Alors vous me direz, il n'a pas eu le temps, il s'est suicidé. Mais... Et s'il s'était converti, s'il s'était repenti, est-ce qu'il aurait pu être sauvé? Apparemment, non. Le mot de Jésus, c'est de dire « il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né, point ». Donc il n'y a même pas l'image, la possibilité qu'il puisse se repentir. Alors certains disent « ben oui, mais c'est parce que en fait, Jésus savait à l'avance que justement il ne se repentirait pas ». Alors on dit « mais il a regretté puisqu'il s'est suicidé ». Oui, mais ce n'est pas pareil d'avoir du remords et de se repentir. Il ne suffit pas de regretter ce que l'on a fait. Se repentir, c'est changer d'attitude. Comme Paul qui persécutait les chrétiens et qui après deviendra un apôtre. Et donc effectivement, se repentir, c'est pas juste dire je regrette. Donc Judas ne s'est pas repenti, si vous voulez, il a regretté, c'est pas pareil. Ou alors certains disent, mais justement, l'erreur de Judas, c'était plus le refus de l'espérance du pardon et de la grâce. En fait, c'est sa mort, le fait qu'il se tue, qui est la chose la plus coupable. C'est ça qui le condamne. Oui, enfin bon, vous voyez, hein, j'essaye de me dépatouiller comme je peux, mais ça pose quand même de vrais problèmes théologiques, cette histoire. Ce n'est pas si simple. Alors, si on veut s'en sortir, il y a une seule solution, c'est de dire, comme d'habitude sur tous les passages de violence de la Bible, de dire, c'est une image pour dire que le problème, ce n'est pas tellement que Judas ait trahi son ami, mais c'est le refus du Christ comme message, si vous voulez. Et si on est contre l'évangile du Christ, c'est-à-dire si on s'oppose à l'amour, à la grâce et au pardon, alors notre vie perd tout son sens et notre vie est perdue. Et alors celui qui ne croirait ni dans l'amour, ni dans la grâce, ni dans le pardon, oui, il vaudrait mieux qu'il ne vive pas, pour lui et pour les autres. Donc là, le message est assez clair, si vous voulez. On peut dire symboliquement, c'est vrai. Ça reviendrait à cette histoire, Jésus dit, vous savez, tout péché est pardonné, sauf une chose, c'est le blasphème contre l'Esprit. C'est-à-dire, tout est pardonné, sauf le fait de ne même pas croire au pardon. Là, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quelqu'un qui ne croirait que dans la haine et dans la rétribution, c'est difficile. Bon, vous voyez, je fais ce que je peux pour sauver Judas, mais c'est compliqué. Alors, entre solutions classiques pour essayer d'excuser Judas, ceux qui l'ont fait ont dit, mais en fait, le pauvre gars, ce n'est pas tellement de sa faute, parce qu'il était comme un objet dans la main de Dieu. Il fallait bien que le plan de Dieu s'accomplisse, il fallait bien que Jésus meure sur la croix, pour ça il fallait bien que quelqu'un le livre et que Jésus meure sur la croix. Donc finalement Judas ne fait qu'accomplir le dessein de la préscience de Dieu, par conséquent il n'est pas responsable. Finalement il nous rend plutôt service, puisque grâce à lui on peut prêcher le Christ ressuscité. Sans Judas on ferait comment? Alors c'est vrai que Ça correspond à ce que dit l'évangile de Jean, en particulier. Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme meure. Alors les disciples disent, mais par qui? Et il dit, c'est celui à qui je donnerai le morceau de pain. Donc Jésus désigne Judas, c'est lui qui doit s'y coller. Et le texte dit, aussitôt le diable entra en lui. Donc pour Jean, Judas n'avait pas prémédité l'affaire, mais autrement dit, c'est lui qui est l'objet de l'accomplissement de la parole de Dieu. Bon, dans les autres évangiles, ce n'est pas évident. D'après les autres évangiles, dans Luc en particulier, on montre que Judas avait déjà ce projet à l'avance. Et l'histoire de Jésus avec le morceau de pain, c'est plutôt Jésus qui montre qu'en fait, il n'est pas dupe, qu'il a tout à fait conscience que Judas avait le projet de le livrer. Mais bon, cette excuse ne tient pas. Parce que nous sommes responsables de nos actes, quoi qu'il arrive. Et vous dites, Jésus, il fallait que Jésus meure. Oui, il aurait pu mourir d'une autre manière. C'était pas obligé que Judas le trahisse. Les pharisiens auraient pu le tuer 1000 fois. Judas n'était pas la seule option. Dieu n'avait pas de nécessité que ce soit Judas qui le trahisse. Donc Judas est bien responsable de ses actes. Et Dieu, en tout cas, ne peut pas, à mon avis, dépêcher de force un meurtrier. Enfin, ce serait quand même, attendez, dans quel Dieu vous croyez? Un Dieu qui est capable de transformer quelqu'un en meurtrier sous prétexte que ça lui rend service, et en plus celui qui est transformé en meurtrier, il est condamné à l'enfer éternel. C'est absolument incohérent. Comment on a pu croire une chose pareille? Et pourtant, il y a évidemment une ambiguïté. Si l'on croit dans cette histoire de préscience de Dieu, c'est très compliqué. Bon, personnellement, je n'y crois pas. Je pense que nous sommes responsables de nos actes et que le cours du monde est ce qu'il est et que Dieu veut se douter de certaines choses, mais que Dieu ne pilote pas tout. Et même Calvin, qui croyait dans la prédestination, disait, certes, le meurtrier sert le plan de Dieu, parce que Dieu savait à l'avance qu'il serait meurtrier, mais il n'empêche, donc il fait le bien sans le vouloir, mais il n'empêche, dit Calvin, que le meurtrier est quand même coupable d'avoir fait le mal. Autrement dit, chacun est responsable du mal qu'il fait, même si sans le savoir, il peut servir quand même le plan de Dieu. Bon, enfin bon, toutes ces solutions classiques sont compliquées, mais ne permettent pas de tout expliquer. En particulier, tout cela se heurte à l'évangile de Jean. Quand, au moment du repas, Jésus dit « l'un de vous me trahira », me livrera plutôt, et les disciples semblent ne pas comprendre, ils disent « mais est-ce moi ?» Ça colle pas. A priori, le traître, il sait très bien que c'est lui. Donc pourquoi les disciples se posent-ils la question? Alors, cette question des disciples qui se demandent qui c'est, alors que celui qui est honnête, il sait que c'est pas lui, les théologiens classiques ont voulu l'interpréter de la façon suivante, en disant « ce « est-ce moi » que l'on lit dans l'Évangile, c'est pour nous inviter à pousser chacun des lecteurs dans l'introspection et se dire « mais finalement, et moi qui lis l'Évangile, n'est-ce pas aussi un peu moi qui trahis Jésus sans cesse ? Et ne suis-je pas justement un petit peu ce Judas-là ? Parce que oui, nous sommes tous finalement un peu coupables de la mort du Christ. Et c'est un peu facile de dire « les méchants ont crucifié Jésus, mais nous sommes gentils, on ne l'aurait pas crucifié. » Mais on le crucifie sans cesse. Chaque fois que nous n'obéissons pas à l'Évangile, chaque fois que nous oublions l'amour du prochain, chaque fois que nous trahissons, chaque fois que nous mentons, chaque fois que nous oublions le Christ, c'est le Christ qu'on persécute et c'est le Christ qu'on crucifie. Eh bien ça, c'est le discours des théologiens classique. Eh bien, je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce que j'en ai assez qu'on me culpabilise. J'en ai assez qu'on me traite de Judas. Ce n'est pas moi qui ai crucifié le Christ, que ce soit clair. Ce n'est pas moi qui ai mangé l'arbre défendu d'Adam et Ève. Ce n'est pas moi qui ai cassé le vase de Soissons. Ce n'est pas moi qui ai persécuté les protestants ou les catholiques. Ce n'est pas moi qui ai fait la Saint-Barthélemy, ni les croisades, ni toutes ces choses-là. Alors on est dans une époque où tout le monde demande pardon pour tout. Tout le monde se sent coupable de tout. Tous les catholiques se sentent coupables des prêtres pédophiles. Les protestants se sentent tous coupables de la mort de Michel Servet. Les Français se sentent coupables de la colonisation. Arrêtons de nous sentir coupables de tout et de rien. Ça ne mène à rien. Je crois que la culpabilité est une chose totalement stérile. Je suis déjà bien assez coupable des fautes que je fais moi-même pour qu'on puisse m'en rajouter des tonnes, des louches et des brouettes en me rendant coupable de tout. Donc moi, j'en ai assez. L'Évangile, ça n'est pas de dire aux gens « vous êtes coupables, vous êtes mauvais, vous êtes pécheurs, vous êtes Judas, vous crucifiez le Christ, et chaque fois que vous faites le mal, vous faites de la peine à Jésus ou à Marie ou à Joseph ou à Dieu, à qui vous voulez ». Ça n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est la grâce, c'est le pardon et c'est la paix. Mais fondamentalement, Jésus nous dit, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes aimés, que vous êtes pardonnés, que vous êtes libérés. Et donc n'écoutez pas ces prétendus prédicateurs qui essayent de transformer l'Évangile dans un moyen de broyer le chrétien pour l'enfermer dans son péché, dans sa misère, dans sa petitesse et dans sa culpabilité. L'Évangile, c'est tout le contraire. Donc, essayons de trouver autre chose. Donc oui, Judas est bien coupable, je crois, et ce que l'on peut dire, c'est que Judas est coupable et que, en fait, ce n'est pas Jésus qui le rend coupable, mais Jésus simplement le désigne et il montre juste qu'il a compris. Il dit, tu sais, je sais très bien que tu as le projet de me trahir. Et Jésus montre qu'il assume cela pleinement. Il dit, écoute, je le sais, tu ne me prends pas par surprise. Mais je l'assume. Et Jésus montre qu'il meurt non pas par faiblesse, non pas par manque de connaissance, de compréhension, etc. Mais il meurt parce qu'il sait très bien ce qu'il fait et il l'assume. C'est ce qu'il dit dans Jean, c'est merveilleux. Il dit « Ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. » Ça, c'est toute la différence entre entre le chrétien généreux et la bonne poire qui se fait avoir par les autres parce qu'il est trop gentil. Ce que je le fais volontairement, personne ne me le prend, c'est moi qui le donne. Alors ça me plaît, mais je vous disais, ça se heurte encore et encore et encore à ce passage de Jean qui laisse entendre que Judas n'avait pas l'idée du tout avant de trahir Jésus et que c'est Jésus qui le pousse à cela. jusqu'à lui dire « C'est toi qui dois me trahir et ce que tu as à faire, fais-le vite. » Comment comprendre ce que tu as à faire, fais-le vite. Alors, il y a des solutions extrêmes. La solution extrême, c'est celle qui vise à faire de Judas le summum de la sainteté. Ça a été fait. Depuis l'évangile de Judas, au 2e-3e siècle, texte qu'on a redécouvert assez récemment et qui a fait grand bruit, peu importe, c'est un texte tardif néanmoins. Et l'idée de l'évangile de Judas, c'est qu'il fallait justement que quelqu'un se sacrifie pour que le plan de Dieu se réalise. Et il fallait que quelqu'un s'y colle, autrement dit. Alors chacun dit, est-ce moi qui dois m'y coller mais... Et donc Jésus confie une sorte de mission sacrée à Judas et qui lui propose, et Judas accepte. Parce qu'en effet, pour l'évangile de Judas, qui est un évangile gnostique, il considère que la vie physique est plutôt une chose mauvaise et que l'idéal, c'est la vie spirituelle. Et que donc celui qui va tuer Jésus, finalement, va lui rendre service. Comme Socrate, si vous voulez, qui appelle ses amis au moment de manger la ciguë et qui dit « c'est merveilleux, je vais être libéré de ce corps mortel, quelle chance !» Et donc il faut que quelqu'un arrive à faire ce travail de faire passer Jésus d'un corps physique mortel et impur à une entité spirituelle. Et celui, il faut que quelqu'un ait ce rôle extraordinaire de passeur, finalement, du monde vers Dieu. Et Jésus désigne quelqu'un et effectivement, il ne dit pas « je sais qui c'est celui avec qui je mettrai le plat ». Il dit « celui qui va le faire, c'est celui à qui je vais donner le morceau de pain ». Jésus prend le morceau de pain et le donne à Judas. Il lui dit « c'est toi mon pote, ce que tu as à faire, fais-le vite ». Il y a donc eu toute une tradition comme ça, visant même à vouloir faire de Judas un saint, celui qui se sacrifie, qui accepte de jouer le rôle du méchant, mais pour la bonne cause, celui qui justement comprend les choses mieux que les autres et qui permet au Christ de passer des ténèbres à la lumière. Ça a été dit depuis le 2e siècle, ça a été réchauffé dans une cuisine discutable dans l'Évangile selon Pilate d'Éric Emmanuel Schmitt, qui a eu grand succès parce que ça fait frémir les chrétiens d'entendre des choses aussi inhabituelles. Bon, c'est assez peu crédible, pour tout vous dire. Assez peu crédible, c'est plutôt incohérent avec la tradition biblique, dans laquelle il n'y a pas de dualisme, et de toute façon, mourir, c'est pas bien, voilà, qu'est-ce que je vous dise, et tuer son ami, c'est de toute façon pas bien. Et que dans l'Évangile, la mort du Christ est effectivement un mal et une catastrophe. Et puis je me méfie de ce genre de thèse parce que historiquement, toutes les thèses visant à réhabiliter Judas ou Pilate, en général, sont toujours très proches d'un antisémitisme latent qui vise à dire la faute, elle n'est ni sur Judas ni sur Pilate, mais 100% sur les Juifs. Donc, ouais, ça ne me plaît pas trop. Et puis d'abord, je dirais... c'est pas la peine d'aller jusqu'à des solutions aussi extrêmes. On peut moduler ça en disant Jésus, en fait, sait que Judas va le trahir. Et simplement, cette histoire de ce que tu as à faire, fais-le vite. C'est Jésus qui, d'une part, montre à Judas qu'il est au courant que Judas va trahir. Donc Judas a toujours le rôle du méchant. Mais le pousse à le faire à ce moment-là. Parce qu'en fait, Jésus dit, ben écoute, ok, je suis prêt. Et puis Pâques, c'est un bon timing, après tout. Ce que Jésus a peut-être programmé, ce n'est pas sa mort, qui était de toute façon inéluctable, c'est le moment de sa mort. Jésus, finalement, s'arrange pour mourir au moment de Pâques. Ça, c'est formidable, parce que Pâques, c'est quand même la fête de la libération d'Égypte, c'est la libération de l'esclavage, c'est le salut, d'être libéré de la mort avec... L'ange exterminateur qui tue les bébés et les maisons marquées du sang de l'agneau échappent. Et donc Jésus s'arrange peut-être pour mourir au moment de Pâques. Pourquoi pas? Alors maintenant, comment je vois les choses? Je vais vous donner ma solution à moi. Ma solution à moi, ou plutôt celle qu'on entend habituellement, la mienne, je vous la dirai après. La plus courante des interprétations contemporaines, c'est de dire que Judas... certes est méchant, mais n'a pas toujours été méchant. Sinon, pourquoi Jésus l'aurait choisi d'abord, hein ? Sans doute qu'il était sincère au départ, Et on dit qu'il est devenu, Judas est devenu méchant par déception par rapport au Christ. C'est-à-dire que Judas attendait un Messie efficace, glorieux et guerrier qui libérerait Israël, qui rétablirait le royaume d'Israël, qui libérerait le peuple de la mainmise des Romains. Et donc Judas d'ailleurs était un activiste violent, puisque c'était un... Il se pourrait que son nom, Judas Iscariote, Iscariote pourrait venir du mot sicaire, et les sicaires c'était une secte violente et activiste qui portait une arme et qui voulait justement se débarrasser des Romains par la violence et par la force. Donc Judas le sicaire voulait une action violente et il se dit: Jésus, ça va être un chef formidable, il va nous libérer des Romains, il va faire une guerre épatante avec l'aide de Dieu. Puis voilà que Jésus finalement fait pas grand chose. Il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il paye l'impôt, il s'écrase devant tout le monde, il dit « Aimez-vous les uns les autres, pardonnez à vos ennemis » et finalement ne s'occupe pas des Romains. Alors Judas est furieux, se sent trahi, trompé par son ennemi, son amour se transforme en haine et du coup il dit « Bon ben, il en a voulu à celui qui l'avait amené sur une fausse voie ». C'est la solution habituelle, elle n'est pas idiote. En tout cas, moi, elle m'apprend quelque chose. C'est que, en fait, ça voudrait dire que l'erreur de Judas, c'était une erreur théologique. C'est-à-dire une mauvaise attente vis-à-vis du Christ. Et qu'une mauvaise théologie, une mauvaise attente de ce que Dieu peut nous donner et faire dans le monde, peut amener à un rejet grave du Christ, de Dieu et de la religion. Et j'en ai vu encore récemment des gens qui viennent me voir pour un service funèbre, et qui me disent: vous savez, monsieur le pasteur, moi en fait je ne crois plus en rien depuis la mort de ma mère, depuis la mort de mon frère, etc. Je ne veux plus entendre parler de Dieu. Et ben c'est ça, une erreur de théologie qui est à la base de ce rejet de Dieu. Il se disait: Dieu c'est formidable, mon enfant est malade, je prie Dieu, il le guérit, mon enfant meurt, donc Dieu n'existe pas, c'est réglé. Mais en fait Judas, c'est ça, c'est une erreur de théologie. Donc arrêtez de me dire que la foi du charbonnier c'est merveilleux et qu'on peut croire naïvement. Non, la foi naïve peut vous amener à rejeter le Christ, à rejeter Dieu, à rejeter l'Église, à rejeter toute espérance. Donc la foi naïve est extrêmement dangereuse. Il faut vraiment réfléchir à ça. Judas est victime d'une erreur de théologie et d'une espérance mal placée. Il faut faire attention à ça. Donc il faut réfléchir théologiquement. Alors après, il y a une autre solution qui est plus plausible mais plus rare et qui est pour moi la mienne, admettons, qui associe à la fois le fait que Judas est gentil mais que son acte était quand même mauvais, contrairement à l'évangile de Judas qui dit que c'était formidable qu'il tue Jésus. Je crois que son acte est mauvais mais que Judas était vraiment un chic type et je vais vous le démontrer. Je crois que Judas trahit, mais en fait par amour et par conviction. C'est-à-dire que Judas croyait, à mon avis, très sincèrement que Jésus était le Christ. Et il se disait, il va sauver le monde. Et il va se révéler au monde, et par lui, Dieu va venir avec des légions d'anges et va sauver tout le monde et va rétablir la justice dans le monde. Ça va être le jour du Seigneur, quelque chose d'extraordinaire. Et puis... finalement, Judas, qui est quand même un sicaire et qui aime l'action, se dit: mais Jésus, je crois en lui, il est top, mais en fait, ça traîne cette histoire, ça n'avance pas. Et donc Judas, qui croit en Jésus, se dit: je vais forcer mon ami à se révéler. Et donc je crois en lui, je vais le confronter au mal, et là, il va bien être obligé de montrer qu'il est le Fils de Dieu. Voilà. Et donc Judas se dit: j'ai pas de souci. Je vais le confronter, le forcer à se confronter aux Romains, le confronter au mal, et à ce moment-là, il va se révéler, Dieu va venir à son aide, ça va être le grand jour du Seigneur qui va venir, et ce sera la gloire. Alors Judas se dit: c'est facile. Effectivement, eh bien, il va voir les Romains, il dit: Jésus, il est là, il dit: je vous le montre, et c'est celui à qui je ferai un baiser, oui, parce qu'il croit en lui, et il l'aime. Et puis les Romains arrivent, Judas se dit: formidable, il va se passer quelque chose. Jésus va sur la croix et il meurt comme un imbécile. Alors là, Judas est catastrophé. Il se dit: non seulement je me suis trompé, mais en plus j'ai tué mon meilleur ami. Et il se tue. Et donc, autrement dit, ce serait encore une fois une erreur de théologie, je dirais, finalement, encore une fois. C'est-à-dire que Judas, en quelque sorte, a voulu mettre Dieu à l'épreuve. Il s'est dit qu'on pouvait l'obliger à agir, et il s'est dit qu'il pouvait vouloir que Dieu agisse à sa place. Et tiens, ça c'est une erreur de théologie, mais elle est dénoncée ailleurs dans l'Évangile. C'est justement dans les tentations du Christ. Quand le diable lui dit « Jette-toi du temple et Dieu enverra des anges pour te sauver », c'est ça. Et Jésus refuse en disant « Non, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Judas tombe dans cette tentation. Il se dit « Je vais jeter Jésus en fait du sommet du temple, Dieu enverra des anges ». Eh bien, Dieu n'envoie pas d'anges, voilà la réponse. Autrement dit, Judas tombe dans cette tentation qui consiste à se dire « C'est Dieu qui va faire les choses à notre place, et Dieu va ramasser les morceaux, Dieu va tout arranger, Dieu va... » Et ça, c'est très dangereux parce que du coup, on risque de faire des erreurs. Et finalement, on pourrait dire que toutes les autres hypothèses que je vous ai évoquées concernant Judas, finalement, en y réfléchissant, ça ressemble aux autres tentations du Christ. La plus classique, qui consiste à dire que Judas l'a fait pour de l'argent, ou pour sa propre gloire ou pour réussir, eh bien finalement c'est la tentation de Jésus quand le diable lui dit « Si tu as faim, prie Dieu, demande qu'il transforme ses pierres en pain », c'est de penser que finalement le pouvoir ou l'argent vaut mieux que le reste. Celle de la déception de Judas qui attendait un acte politique de Jésus et qui finalement est déçu parce que son ami ne fait rien, c'est la tentation qui consiste à d'attendre de Dieu ce qu'il n'offre pas, c'est-à-dire effectivement de transformer les pierres en pain, je vous disais, etc. L'autre sur la question du pouvoir, c'est de savoir si on choisit le Christ ou si on choisit le mal et le pouvoir ou le diable. Et donc finalement, toutes les solutions concernant Judas, à mon avis, sont toutes intéressantes en fait, et elles sont toutes les trois bonnes. Donc je ne sais pas s'il faut choisir entre l'une ou l'autre, mais peut-être qu'il faut garder les trois parce que chacune des solutions nous donne un enseignement important et nous montre les erreurs qui nous menacent effectivement. Et Jésus deviendra le Christ en résistant à chacune des trois tentations et en évitant les pièges théologiques. Et il va mourir par Judas qui, lui, finalement sera tombé dans les trois tentations. Qui est de choisir de servir le diable pour le pouvoir et la réussite plutôt que Dieu, d'attendre de Dieu qu'il agisse matériellement dans le monde et de se dire d'attendre que Dieu fasse les choses à notre place. Et c'est par là qu'il va mourir. Parce que c'est vouloir un Dieu qui puisse satisfaire nos propres désirs enfantins. C'est de vouloir s'imaginer un Dieu qui soit pour nous faire plaisir. C'est ça l'erreur de Judas. Un Dieu qui soit comme nous, un Dieu comme on le rêve. Et en fait, ce Dieu n'est pas un Dieu. Quand on croit dans un Dieu qui n'est que sa propre projection de ses désirs infantiles, eh bien, Dieu n'est pas un Dieu, mais un fantasme de notre désir de toute puissance. J'aimerais être tout puissant, je ne le suis pas, mais je crois en Dieu, donc avec Dieu j'ai la toute puissance. Ça, c'est très dangereux. Et rester dans cette névrose infantile est grave, parce que non seulement ça tue le Christ, mais ça peut aussi nous tuer, comme Judas en meurt lui-même de cette histoire. Alors que le Dieu qui nous sauve, c'est celui de Jésus-Christ. Et si ce n'est pas nous qui le tuons avant, je dirais. Et ce Dieu, c'est en nous qu'il peut vivre, si nous savons l'accepter tel qu'il est, comme un Dieu qui nous invite à sortir de nous-mêmes, à sortir de nos propres désirs, pour aller dans le monde, pour servir le monde, pour donner notre vie au monde et pour donner de la joie au monde. Amen.